Vous écoutez, on lit pour vous.
1849-1940, le long chemin vers le droit de vote et d'éligibilité, partie 1. Un texte de Mathieu Houle-Courcel, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes. Droit de vote et d'éligibilité. Au cours des années qui suivent les insurrections de 1837-1838, les droits des femmes subissent de nombreux reculs. Le 30 mai 1849, l'Assemblée législative de la province du Canada normalise les lois électorales du Bas-Canada et du Haut-Canada, privant toutes les femmes de leurs droits politiques. L'adoption du Code civil du Bas-Canada, en 1866, par le Parlement, consacre l'incapacité juridique des femmes mariées. En vertu d'une loi fédérale adoptée en 1869 sous le gouvernement de John A. Macdonald, les femmes autochtones qui se marient avec des non-autochtones se voient dépouillées de leur statut d'indien. Cette même loi retire à ces femmes le rôle politique qu'elles pouvaient exercer dans certaines communautés. Désormais, les conseils de bande sont élus par les seuls mâles majeurs du groupe et les femmes n'ont plus aucune voix officielle. Dans une période marquée par l'ultramontanisme et le conservatisme social et politique, on assiste à une véritable mise sous tutelle des femmes qui entraîne leur repli quasi complet vers la sphère domestique. Les débuts du mouvement des femmes au Québec, 1880-1910. La décennie 1880 marque la naissance du mouvement des femmes au Québec et au Canada. Comme le souligne l'historienne Denise Baillargeon, l'indifférence ou à tout le moins le silence qui accompagne la décision des députés de la province du Canada d'éliminer le suffrage féminin en 1849 va faire place, à partir de la fin du 19e siècle, à un désir toujours plus affirmé d'une partie de la population féminine d'obtenir ce droit. En pleine révolution industrielle, de plus en plus de femmes s'intéressent de près à ce qu'on appelle alors la question sociale. En milieu urbain, les problèmes de santé publique ne manquent pas. Les maladies infectieuses tuent chaque année des milliers d'enfants, tout particulièrement dans les milieux francophones et ouvriers. D'autres enjeux comme l'insalubrité des logements, l'alcoolisme, la prostitution ou la criminalité juvénile sont d'importantes sources de préoccupation. À travers une panoplie d'associations caritatives et philanthropiques, des femmes issues de la bourgeoisie prennent conscience de ces problèmes et proposent des pistes de solutions pour y remédier. Elles soutiennent le mouvement de réforme urbaine qui prend forme à cette époque, tout particulièrement à Montréal, mais aussi à Sherbrooke et à Québec. Des associations naissantes. Afin de coordonner leur action, plusieurs de ces associations procède à la mise sur pied du Conseil local des femmes de Montréal. Fondé en 1893, le Conseil local des femmes est affilié au Conseil des femmes du Canada, lui-même membre du Conseil international des femmes. L'action du Conseil permet aux associations féminines d'obtenir une meilleure visibilité dans l'espace public. De plus en plus, c'est en tant que citoyennes que ces femmes font entendre leur voix, que ce soit par l'intermédiaire de pétitions, de mémoires ou de rencontres avec les responsables politiques. On aurait tort de croire que cette action ne fut circonscrite qu'à une frange de la bourgeoisie progressiste. À l'automne 1899, des femmes de la classe ouvrière mettent sur pied l'Association pour les droits de la femme. Alphonsine Rodier, Madame Pierre Drolet, en est la présidente. Les membres de l'association ont des liens étroits avec le mouvement syndical, de même qu'avec les premiers groupes socialistes actifs à Montréal, et leurs conjoints y adhèrent. Dès sa première rencontre, l'association se prononce en faveur du suffrage féminin. Elle appuie également divers projets de réforme proposés par le mouvement ouvrier, comme la municipalisation des services d'utilité publique. La plupart de leurs revendications rencontrent un accueil positif auprès des syndicats affiliés au Conseil central des métiers et du travail de Montréal, à l'exception du droit de suffrage. Il faut dire qu'à la fin du 19e siècle, la présence de délégués dans les assemblées syndicales fait toujours l'objet de débats. Contrairement au Conseil local des femmes de Montréal, qui fait pression à cette époque pour que les femmes contribuables puissent voter aux élections municipales et scolaires, l'association revendique ce droit fondamental pour toutes les femmes 10 ans avant l'adoption de ce même principe par d'autres groupes suffragistes au Québec. L'Association pour les droits de la femme est sans doute le plus ancien groupe féministe majoritairement francophone au Québec. À la même époque, le Conseil local des femmes est composé en grande partie d'organisations protestantes dirigées par des femmes de la communauté anglophone. Si des militantes canadiennes-françaises comme Joséphine Marchand d'Endurant occupent des fonctions importantes au sein de l'organisation, les francophones restent largement minoritaires. Rares sont les associations catholiques qui adhèrent au Conseil. Cette situation s'explique en bonne partie par l'hostilité du clergé catholique envers la neutralité religieuse du Conseil local des femmes. Afin de contourner ce problème, des militantes francophones décident de mettre sur pied leur propre organisation, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, dont l'objectif est de réunir les groupes féminins catholiques au sein d'une même structure. Fondée en 1907, la Fédération obtient immédiatement l'appui du clergé et devient le fer de lance de l'action féministe catholique au Québec. À l'instar du Conseil local des femmes de Montréal, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste cherche à étendre le droit de vote des femmes aux élections municipales et scolaires, sans toutefois revendiquer le suffrage universel. Cette position, en apparence contradictoire, est attribuable au caractère controversé de cette question au sein des milieux catholiques, mais aussi au rôle conféré aux femmes dans la sphère privée. Avant la crise économique des années 1930, les gouvernements provinciaux et fédéraux interviennent très peu sur les enjeux de santé, d'éducation et de soutien aux personnes indigentes. Au Québec, ces domaines relèvent principalement des communautés religieuses ou des gouvernements locaux. Les administrations municipales et scolaires sont alors perçues comme étant plus proches des intérêts féminins découlant de leur rôle de mère. En 1892, les femmes célibataires propriétaires et les veuves obtiennent le droit de vote aux élections municipales et scolaires sans qu'il leur soit permis de se porter candidate. En 1899, les femmes locataires de Montréal, payant des taxes, obtiennent à leur tour ce droit. Toutefois, il est fréquemment remis en question, obligeant le mouvement des femmes à s'organiser pour le défendre. Vous écoutez 1849-1940, le long chemin vers le droit de vote et d'éligibilité. Partie 1. Un texte de Mathieu Houle Courcel, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes. La lutte pour le droit de vote aux élections fédérales et provinciales, 1910-1940. Après avoir mené plusieurs batailles pour garantir le droit au suffrage aux femmes, propriétaires et locataires de Montréal, le mouvement des femmes va redoubler d'énergie pour l'étendre aux élections provinciales et fédérales. À partir des années 1910, on voit l'apparition de nouveaux groupes qui se concentrent exclusivement sur cet enjeu. La Montreal Suffrage Association, MSA, 1913, l'Equal Franchise League, 1913, de même que le Comité provincial pour le suffrage féminin, 1922. Présidée par Carrie Matilda Derrick, première femme à occuper le poste de professeur titulaire dans une université canadienne, la Montreal Suffrage Association est formée à l'initiative du Conseil local des femmes de Montréal. Comme le souligne Denise Baillargeon, la fondation de la MSA découlerait de la volonté de maintenir l'intérêt de la population, surtout anglo-montréalaise, pour la question du vote des femmes en poursuivant les initiatives qu'il avait déjà entreprises. En 1915, sa présidente rencontre le premier ministre Lomer Gouin pour lui faire part des revendications de l'organisation. Ce dernier lui oppose une fin de non-recevoir, prétextant qu'aucune femme de l'Empire britannique n'a encore le droit de vote lors d'élections générales. L'hebdomadaire montréalais Saturday Mirror permet de suivre les activités de la MSA et de ses contacts avec des figures de proue du mouvement suffragiste anglais comme Emmeline Pankhurst. Tout comme le Conseil local des femmes, la Montreal Suffrage Association obtient l'appui d'une partie de l'élite politique et économique anglophone de la métropole, d'où proviennent la plupart de ses militantes les plus actives. Tel n'est pas le cas de l'Equal Franchise League, mise sur pied à la même époque. Cherchant à mobiliser les femmes de la classe ouvrière sur la question du droit de vote, l'Equal Franchise League compte parmi ses membres des militantes socialistes comme Rachel Ray Press, Madame Ray Mendelson ou Rose Henderson. Signe de l'évolution des mentalités au sein du mouvement ouvrier montréalais, des bannières réclamant le droit de suffrage pour les femmes font leur apparition dans les manifestations organisées le 1er mai pour souligner la Journée internationale des travailleurs. Les groupes suffragistes, en apparence unis autour d'une même cause, vont néanmoins prendre des chemins différents pendant la Première Guerre mondiale. Alors que le conflit s'enlise en Europe, le gouvernement fédéral dépose en 1917 un projet de loi visant à accorder le droit de vote aux mères de soldats partis au front. L'objectif du gouvernement est d'obtenir la majorité nécessaire pour remporter un référendum portant sur la conscription obligatoire. Le mouvement des femmes est divisé sur cet enjeu. La majorité des membres de la Montreal Suffrage Association, favorable à la conscription, se range derrière la proposition du gouvernement, estimant qu'il s'agit d'une avancée importante, bien qu'insuffisante, pour les femmes canadiennes. Autre son de cloche du côté de l'Equal Franchise League. Opposés à la guerre et à la conscription, les membres du groupe jugent que la manœuvre du gouvernement est foncièrement opportuniste. Quant à elle, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, proche des milieux nationalistes, appuie l'effort de guerre tout en étant opposée à la conscription. Au nom d'arguments maternalistes, elle mène une campagne pour que toutes les femmes puissent enfin exercer le droit de suffrage. Sa présidente, Marie Lacoste, Gérin-Lajoie, envoie un télégramme au premier ministre Robert Laird Borden où elle lui enjoint de bien vouloir conférer le droit de vote aux femmes au même titre qu'aux hommes, afin de reconnaître les immenses services qu'elles ont rendus pendant la guerre en assistant les blessés, notamment dans la Croix-Rouge, et en se livrant à des œuvres humanitaires et qui honorent le pays. En 1918, le droit de vote est obtenu par les femmes aux élections fédérales. Au-delà des arguments de nature démocratique, les services rendus par les femmes pendant la guerre jouent un rôle déterminant dans cette décision. La même année, l'Equal Franchise League adhère à la section de la province de Québec du Parti ouvrier du Canada qui vient d'être mise sur pied. Des femmes occupent plusieurs postes importants au sein de la nouvelle formation politique. C'est notamment le cas de la militante suffragiste et socialiste Mathilde Prévost, Madame Conrad Lacombe, élue vice-présidente. Elle est remplacée à ce poste l'année suivante par Rose Henderson, laquelle se présente comme candidate ouvrière lors de l'élection fédérale de 1921 dans la circonscription de Saint-Laurent-Saint-Georges. Henderson obtient 510 votes, soit 3,7% des suffrages exprimés. Pour la première fois dans l'histoire québécoise, le nom d'une femme apparaît sur un bulletin de vote. À suivre. C'était 1849-1940, le long chemin vers le droit de vote et d'éligibilité, partie 1. Un texte de Mathieu Houle-Courcelles, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes. (Rire) 1849-1940, le long chemin vers le droit de vote et d'éligibilité, partie 2. Un texte de Mathieu Houle-Courcelles, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes. Le suffrage féminin, un tournant dans l'histoire politique du Québec. Les gains obtenus au fédéral marquent une étape importante dans le combat du mouvement des femmes pour l'affranchissement politique. Les militantes suffragistes actives au Québec devront toutefois redoubler d'efforts pour étendre la portée de ce droit au provincial. Le vide créé par la dissolution de la Montreal Suffrage Association en 1919, est comblée par la mise sur pied, en 1922, du Comité provincial pour le suffrage féminin. Organisation bilingue, co-présidée par Marie Lacoste-Gérin-Lajoie et Anna Lyman, le comité exerce immédiatement des pressions sur le gouvernement libéral dirigé par Louis-Alexandre Taschereau. Ce dernier exprime de profondes réticences face à leurs revendications, citant l'opposition résolue des évêques catholiques du Québec face au suffrage féminin. Loin de se laisser abattre, les suffragistes portent leurs revendications à l'hôtel du Parlement de Québec. Le 9 février 1922, elles sont entre 4 et 500 à envahir le Parlement, anglophone, francophone, mais aussi quelques représentantes de la communauté juive. Elles déposent une pétition de 3200 noms appuyant le suffrage féminin. Le gouvernement Taschereau reste ferme sur ses positions, prétextant que la majorité des femmes québécoises ne souhaitent pas obtenir le droit de vote. La mobilisation des suffragistes est contrecarrée par celle des milieux catholiques et conservateurs qui parviennent à bloquer l'élan du Comité provincial pour le suffrage féminin. Leur intransigeance place le Québec en retard sur les autres sociétés nord-américaines. Une à une, les autres provinces canadiennes adoptent des lois qui garantissent le suffrage féminin entre 1916 et 1922. Vers l'obtention du droit de vote aux élections provinciales. La lutte pour le droit de vote est relancée à la fin des années 1920, par la mise sur pied de deux nouvelles organisations, l'Alliance canadienne pour le droit de vote des femmes, 1927, dirigée par Idola Saint-Jean, et la Ligue des droits de la femme, 1929, présidée par Thérèse Casgrain. Grâce à leurs interventions, le débat sur la question du suffrage féminin prend de l'ampleur. Les gains obtenus par d'autres femmes ailleurs au Canada les encouragent à poursuivre la lutte. En 1929, le Conseil privé invalide un jugement rendu par la Cour suprême du Canada l'année précédente qui considérait que les femmes n'étaient pas des « personnes » selon les termes de l'article 24 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Ce faisant, les femmes obtiennent le droit de devenir membres du Sénat. Loin de se limiter à la question du droit de vote, les droits politiques des femmes sont, plus que jamais, intimement liés à d'autres revendications portant sur leurs droits économiques et sociaux, et qu'il s'agisse de leur statut juridique ou de leurs conditions de travail. Entre 1927 et 1940, les deux organisations multiplient les démarches auprès du gouvernement provincial, que ce soit par le dépôt de pétitions, de rencontres avec des responsables politiques ou par le biais de campagnes de sensibilisation. Elles cherchent aussi à joindre les femmes vivant dans les milieux ruraux, une tâche ardue jusqu'alors délaissée par les groupes suffragistes établis à Montréal. L'essor des femmes dans la sphère publique. Tout au long de cette période, la place occupée par les femmes continue de s'accroître dans la sphère publique. Au plus fort de la crise économique des années 1930, les femmes sont partie prenante des luttes menées par les sans-emploi, afin d'obtenir des secours directs par les différents ordres du gouvernement. Le droit de vote est de plus en plus perçu comme un outil indispensable qui permettrait aux femmes de faire respecter leurs droits fondamentaux. Les revendications des groupes suffragistes commencent à trouver un écho à l'Assemblée législative. Entre 1927 et 1939, pas moins de 13 projets de loi sont parrainés par des députés de différentes formations politiques afin d'accorder le droit de vote aux femmes. La vaste majorité des parlementaires demeure toutefois fermement opposée à tout élargissement. Selon Denise Baillargeon, ces députés ne considèrent pas l'absence de suffrage féminin comme un objet de honte pour le Québec. Tout au contraire, leur nationalisme les amène plutôt à se féliciter de ne pas suivre la voie tracée par leurs voisins anglo-protestants et de garder les yeux fixés sur la France où les femmes ne votent pas non plus, comme ils se plaisent à le rappeler. Pour la classe politique, comme pour le clergé catholique, la séparation des sphères privées et publiques demeure plus que jamais nécessaire. Les femmes doivent continuer à jouer leur rôle de gardienne de la foi et de la langue dans la cellule familiale. À leurs yeux, l'extension du suffrage féminin mènerait inexorablement à la masculinisation des femmes, prélude à la dissolution de la spécificité nationale canadienne-française. Malgré les quolibets et les invectives, les militantes suffragistes gardent le cap. Elles sont conscientes des changements qui s'opèrent peu à peu dans la société québécoise et entendent bien mener leur lutte à son terme. En 1939, grâce à l'intervention de Thérèse Casgrain et d'une quarantaine de délégués au congrès annuel du Parti libéral, la formation politique s'engage à accorder le droit de vote aux femmes une fois portées au pouvoir. Il s'agit d'un virage majeur pour le parti dirigé par Adélard Godbout, jusqu'alors opposé à cette mesure. La victoire libérale lors des élections tenues au mois d'octobre 1939 ouvre la voie au dépôt d'un projet de loi par le nouveau gouvernement. Le 25 avril 1940, la loi accordant aux femmes le droit de vote et d'éligibilité est adoptée à l'Assemblée législative par une large majorité. Le Conseil législatif fera de même. Point tournant dans l'histoire politique du Québec, la lutte pour l'obtention du suffrage féminin a mobilisé 3 générations de militantes. La reconnaissance de ce droit ne met toutefois pas un terme aux inégalités entre les hommes et les femmes. D'importantes disparités juridiques, économiques et sociales demeure bien présente. Un long chemin reste encore à parcourir pour que les femmes obtiennent enfin l'égalité de droits et de faits dans la sphère publique comme dans la sphère privée. C'était 1849-1940, le long chemin vers le droit de vote et d'éligibilité, partie 2. Un texte de Mathieu Houle-Courcel, paru le 26 février 2025 dans La Gazette des femmes.
La DPJ déboutée par la Cour d'appel, une chronique de Mylène Moisan, paru le 8 avril 2025 dans Le Droit. La Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, a défendu pendant plus de 2 ans son laxisme dans un dossier où il lui a fallu 5 signalements et 59 jours pour sortir de chez lui un enfant qui se faisait violenter par sa mère et par sa grand-mère. Elle vient d'être déboutée une troisième fois. L'histoire commence fin septembre 2022. La DPJ retient, sans l'évaluer, un signalement pour un garçon de 7 ans violenté par sa mère. Trois autres signalements sont retenus, mais non évalués, en octobre, pour violence psychologique et physique de sa mère et de sévices physiques par sa grand-mère. Il faudra un cinquième signalement fin novembre pour des coups de bâton assénés par un oncle pour que la DPJ le sorte enfin de chez lui en urgence. Le délai prévu pour évaluer le premier signalement retenu, qui présentait un danger réel et prévisible, était de 4 jours ouvrables. Il aura fallu presque 2 mois. L'avocate qui poursuivait la DPJ pour avoir sévèrement lésé les droits de l'enfant a demandé à ce que le jugement soit signifié personnellement à la directrice de la protection de la jeunesse responsable du dossier. Il s'agit de nul autre qu'Assunta Gallo, alors DPJ du centre-sud de l'île de Montréal, avant d'être nommée en janvier par le gouvernement vice-protectrice du citoyen. La même qui était en poste lors du scandale de Cité des Prairies. Pour sa défense, la directrice a minimisé la gravité de la situation. Bien que le délai d'intervention est de 4 jours, la réalité actuelle de la liste d'attente ne nous permet pas de respecter ce délai. L'argument ne convainc pas le tribunal, qui en vient à la conclusion que les droits de l'enfant ont été lésés par la directrice puisque l'enfant n'a pas reçu les services adéquats en temps utile et avec diligence pour assurer sa protection et mettre fin à la situation de compromission vu le délai nettement déraisonnable qu'a mis la directrice avant de procéder à l'évaluation des signalements le concernant, résume la juge Marie Archambault dans sa décision du 24 juillet 2023. Mais ça ne s'arrête pas là. Au lieu de faire son mea culpa, la DPJ dirigée par Assunta Gallo a choisi de saisir la Cour supérieure pour faire casser le jugement, reprochant à la juge de première instance de ne pas avoir tenu compte du manque d'effectifs qui a causé le délai de 59 jours. Le 12 juillet 2024, l'honorable Gita Narang a confirmé le premier jugement. Ses conclusions sont correctes et l'appel doit donc être rejeté. Déboutée une deuxième fois, la DPJ allait-elle faire son mea culpa? Eh bien non. Elle a encore porté sa cause en appel, affirmant que la juge de la Cour supérieure a erré en droit en ne considérant pas les ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose pour déterminer si le droit de recevoir des services sociaux adéquats a été lésé. On parle de 59 jours, pas 8. La semaine dernière, le 2 avril, 3 juges de la Cour d'appel ont à leur tour conclu que la DPJ du centre-sud de l'île de Montréal a brimé les droits de l'enfant en le laissant pendant presque 2 mois dans une situation où sa sécurité était sérieusement compromise. Puisque tant la Cour du Québec que la Cour supérieure ont conclu que le délai d'intervention de la DPJ était déraisonnable et qu'il a porté atteinte aux droits de l'enfant, la preuve des ressources limitées de la DPJ n'était pas pertinente dans ce cadre. Et ceci, il faut que l'accent soit mis sur l'enfant et non sur la DPJ. L'appel a été balayé du revers de la main. Résultat, depuis plus de 2 ans, la DPJ ne lésine pas sur les ressources de son contentieux pour plaider qu'elle n'a pas assez de ressources pour s'occuper des enfants pour qui elle a la responsabilité légale d'assurer la sécurité. Je serais curieuse de savoir combien de milliers de dollars ont été engouffrés pour essayer de sauver la face. Ça doit être une petite fortune. Tout ça pour ne pas assumer ses torts, pour ne pas reconnaître qu'on l'a échappé, pour se laver les mains. C'est la même Assunta Gallo qui rejette toute responsabilité dans le scandale de Rivière-des-Prairies en prétextant que le centre de réadaptation où habitaient les jeunes n'était pas de son ressort, que c'était l'affaire du CIUS. Les DPJ doivent assurer la sécurité des enfants et des jeunes, point. Pareil dans un autre dossier de lésion de droit, toujours sous sa juridiction, où une jeune fille de 12 ans a été agressée sexuellement à plus d'une reprise par un intervenant dans une ressource, où la DPJ a mis presque une année avant d'agir. Surtout que ça s'était produit 2 ans plus tôt, en 2019, dans la même ressource, que la DPJ devait mettre en place un protocole pour que ça n'arrive plus. Devant le tribunal, Mme Gallo avait reconnu ne pas l'avoir fait. La bataille judiciaire qu'a livrée la DPJ pour justifier son délai de 59 jours est révélatrice de son obsession à vouloir avoir raison, mais aussi à banaliser des situations inacceptables en jurant qu'on ne peut pas faire mieux, ni autrement. C'est comme ça qu'on envoie des enfants autistes dans des centres de réadaptation, qu'on sépare des triplés, qu'on fait le contraire de protéger. C'était la DPJ déboutée par la Cour d'appel, une chronique de Mylène Moisan, parue le 8 avril 2025 dans Le Droit.
Artiste cherche atelier désespérément. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 22 mars 2025 dans Le Devoir. Politique inadaptée, financement déficient, fréquentation en baisse. Les signaux de crise se multiplient dans le système culturel québécois. Le Devoir poursuit sa série pour documenter les maux de cette crise et leurs remèdes. Dans cet article, la pénurie de logements et ses impacts sur les artistes. Il y a 4 ans, en pleine pandémie, l'artiste interdisciplinaire Marianne Stratis a eu recours à la campagne comme bien des urbains à l'étroit dans leur petit logement. Elle s'est installée avec son amoureux à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. J'habitais seul à Montréal, je terminais ma maîtrise et je savais très bien que je ne pourrais pas me payer un atelier, raconte Mme Strati en entrevue téléphonique. Les confinements de la pandémie ont pesé dans la décision, mais il y avait aussi l'attrait d'une maison et de la nature. Elle y a aussi trouvé un tas d'avantages, ne serait-ce qu'une concurrence moins féroce entre artistes pour les bourses ou les lieux d'exposition. Marianne Stratis a continué sa collaboration au sein du collectif Do Soft Club, qu'elle a cofondé en 2017 avec Marion Paquette et Pénélope et Chloé. Quand le quatuor reçoit une invitation, les maigres cachets sont souvent divisés en 4. Madame Paquette est en résidence de création au Japon en ce moment. Pénélope et Chloé vivent et travaillent encore à Montréal. Elles ont quitté les ateliers 3333, propriété d'une entreprise d'économie sociale, quand le loyer de l'espace de création a doublé pour passer à environ 2 000 $ par mois. Elles attendent une place aux ateliers Belleville, qui offrent des espaces collectifs et des outils en partage. Pénélope et Chloé ont déménagé presque chaque année d'un atelier à un autre. « Je les trouve très résilientes », note Mme Stratis. « Nous avons toutes été obligées de nous trouver un emploi maintenant parce que les revenus de l'art ne suffisent plus. On vivait toutes sous le seuil de la pauvreté et le niveau de stress devenait insupportable, encore plus avec l'inflation et la hausse du coût de la vie. » Elle-même travaille comme responsable des collections au musée du Bas-Saint-Laurent. Son couple a eu un enfant et espère acheter une première maison. J'ai fait le choix de mettre sur pause ma pratique artistique depuis 2 ans. J'ai envie de m'installer chez moi et je dois faire des sacrifices. J'ai envie d'être moins stressé. C'est difficile de garder son statut d'artiste. On est toujours au bord du gouffre, menacé par la précarité, menacé de perdre son logement ou son atelier ou les deux lieux essentiels. Mais en ne pratiquant plus, je perds une partie essentielle de moi-même. Syllogisme de l'indigence. L'insécurité devient l'un des nouveaux marqueurs de la division sociale et celle par rapport au logement s'étend. La pénurie d'habitation au Canada a été désignée comme nouvelle de l'année 2024 par la presse canadienne après un sondage auprès des directions des salles de nouvelles du pays. Les artistes ne sont pas moins frappés que les autres indigents par cette crise nationale majeure. Le syllogisme pourrait aller comme suit. Les pauvres subissent la crise du logement. Or, les artistes sont pauvres, donc les artistes subissent la crise du logement. En fait, les artistes visuels, les artisans et les musiciens subissent la crise immobilière 2 fois, sur leur logement et sur leur studio de création. On parle bien d'un double effet dans notre secteur, résume Camille Cazan, directrice du regroupement des artistes en arts visuels, RAAV, en poste depuis 2 ans. C'est un problème d'inflation qui se répercute dans le loyer, mais aussi dans les coûts du matériel d'artiste, du transport ou du stockage des œuvres dans un contexte où les revenus de la pratique artistique stagnent ou baissent. Il y a aussi de moins en moins de logements et d'ateliers disponibles, particulièrement dans les villes. Le RAAV a sondé ses membres en avril 2024. Plus de 70% occupaient un atelier et les orphelins de lieux de création évoquaient comme raison les coûts trop élevés, 80%, ou l'indisponibilité d'un local, 35%. Une grande majorité, 8 sur 10, avait bénéficié d'un programme de subvention pour aider à la location, mais dans une faible portion des coûts, 10% du loyer. Le coût du loyer reste le premier critère de location d'un lieu de travail. La moitié des artistes paient entre 200 et 300 $ par mois et 15% entre 800 et 1200 $. 7 répondants du RAAV sur 10 disaient avoir subi une augmentation de loyer de leur atelier et un gros tiers avait dû déménager une ou plusieurs fois à cause de cette augmentation. À Montréal et à Québec, plus d'un artiste sur 5 déclarait avoir été évincé de son atelier à cause du changement de vocation des lieux occupés. En région, les rénovictions touchaient 16% des artistes. La mécanique d'occupation est bien connue depuis des décennies. Les artistes s'installent dans des lieux industriels désaffectés. À la longue, ils revitalisent des quartiers qui attirent des bourgeois bohémiens qui finissent par s'emparer des lofts. Cette roue immobilière tourne à plein régime depuis le tournant du siècle. À Montréal, le quartier des spectacles et le Mile End ont ainsi été vidés en partie de leurs créateurs. Vous écoutez « Artistes cherchent atelier, désespérément », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 22 mars 2025 dans Le Devoir. Ville magique, ville tragique. C'est dans ce dernier quartier que s'est installée l'autrice Catherine Leroux à 19 ans, au tournant du siècle, quand elle a déménagé sur l'île en provenance de sa banlieue natale. C'était un quartier abordable, près de l'université, explique Madame Leroux. C'était en fait un endroit magique de Montréal, en fête perpétuelle, un lieu de surprise, de création parce que ses habitants avaient le loisir de gagner leur vie pauvrement, mais suffisamment pour avoir beaucoup de temps pour faire autre chose. Au début de la pandémie, elle a déménagé plus au nord, dans Ahuntsic. Elle paie 1 700 $ de loyer par mois. Elle travaille toujours de chez elle. « Mais je n'ai pas de bureau à la maison », précise l'artiste. « J'ai 2 enfants et notre appartement a 3 chambres. Je travaille sur la table de la cuisine, sur les pupitres des enfants. Je préférerais avoir un bureau, mais déjà trouver un lieu de vie et de travail abordable pour une personne à la tête d'une famille monoparentale, c'est un luxe extraordinaire. Je me sens privilégié dans un sens, surtout par rapport aux gens qui font du théâtre, de la danse ou de la musique et qui ont besoin de tellement plus de moyens pour créer. Comme Marianne Stratis, elle remarque par contre que les créateurs autour d'elle sont de plus en plus obligés de délaisser leur art pour des emplois alimentaires, souvent en combinaison. Pour un écrivain, ça peut vouloir dire un peu de traduction, un peu d'enseignement, un peu de rédaction et beaucoup moins d'écriture littéraire. Catherine Leroux gagne aussi sa vie comme traductrice et éditrice pour les éditions Alto de Québec, tout en continuant d'écrire. Son dernier roman, « Peuple de verre », traite d'ailleurs de la crise du logement en parlant d'un monde proche où se loger est devenu un hyperluxe, où la reporter Sidonie couvre la pénible situation des illogés, un néologisme de l'autrice, jusqu'à ce qu'elle y bascule elle-même. Mon personnage de journaliste permet d'illustrer l'arrogance qu'il y a à penser que la crise n'affectera que les personnes précaires jusqu'à ce qu'elle frappe la classe moyenne, explique l'autrice. On s'entend que si on avait eu cette conversation il y a 10 ans, on aurait considéré que les artistes qui ne gagnent pas facilement leur vie sont quand même des privilégiés. Ils sont cultivés, vivent dans des quartiers cool, aiment les beaux objets, etc. Cette richesse culturelle donne l'impression d'être à l'abri de la chute, de ne pas être menacé de se retrouver à la rue. Action, réaction. Le RAAV est membre du Front commun pour les arts, un regroupement d'organismes faisant pression sur Québec pour l'augmentation du soutien financier de l'État. Des augmentations combinées du coût des loyers, des transports, des fournitures, des services et des assurances, bref, l'inflation en général, sont citées parmi les raisons justifiant une hausse significative du budget du Conseil des arts et des lettres du Québec, CALQ. Le Front commun demande 200 millions par année pour l'organisme qui vient en aide aux artistes et aux écrivains. Montréal travaille à une politique du développement culturel qui sera déposée dans quelques semaines et comprendra un volet sur l'accès des artistes à des espaces de vie et de travail. Le sujet nous préoccupe totalement, dit Valérie Beaulieu, directrice du service de la culture de la ville. On travaille à partir des expériences, des démarches, des outils mis en place dans les dernières décennies. La mobilisation pour le sauvetage de l'usine Grover et sa transformation en Atelier créatif Montréal en 2007 a offert un modèle reproduit 2 ans plus tard avec Pi2, avenue de Gaspé, toujours pour maintenir et préserver des lieux de création. Un programme conjoint de Québec et de la ville est né ensuite, doté d'une enveloppe de 30 millions de dollars pour rénover des espaces. Les ateliers 33-33 font partie du lot de 6 projets soutenus par cette manne. La récente hausse importante des loyers dans cet immeuble du boulevard Crémazy, peu de temps après son inauguration, illustre les difficultés à faire face à la hausse des taux d'intérêt et des taxes. On a une priorisation pour les artistes en art visuel et on constate qu'il y a quand même des besoins en danse, en musique et dans d'autres disciplines, dit Mme Beaulieu. Elle cite l'exemple du projet privé, mais soutenu par la ville, du Faubourg à musique, en développement pour créer des espaces de répétition, des studios et des dizaines d'appartements. La vitalité culturelle de la ville passe par ses artistes, ses créateurs, qui sont aussi des citoyens. On a un quartier de spectacle, mais il n'est malheureusement plus habité par des artistes. C'était « Artistes cherchent atelier, désespérément », un texte de Stéphane Baillargeon paru le 22 mars 2025 dans Le Devoir.
Ces regards amoureux de garçons altérés, un chant d'amour désespéré. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 30 mars 2025 dans le magazine Fugue. Une chambre dans un sauna. Un gars se drogue, s'envoie en l'air avec des gars. Ce monologue au titre poétique, ses regards amoureux de garçons altérés, porté par Gabriel Zabot et signé Éric Noël dans une mise en scène de Philippe Cyr, prendra l'affiche prochainement au Théâtre Prospero. Le Chemsex, Éric Noël, il a connu. Ce texte, il l'a écrit pendant cette période d'errance, entre espérance et désespérance. Pas de faux-semblants, pas de faux-fuyants, une plongée pour fuir les autres, se fuir soi-même, et peut-être s'y reconnaître. Quelle est la genèse de ce texte? C'est un texte que j'avais écrit il y a plusieurs années, un texte que j'avais lu, et puis la production a mis 10 ans. Mais il faut tenir compte aussi qu'il y a eu la pandémie, et Philippe Cyr et moi rêvions de le mettre sur scène. On y arrive enfin. C'est une autofiction? Je ne m'en suis jamais caché, mais je ne l'ai jamais revendiqué non plus. Quand on regarde de la pièce, on n'a aucun doute que l'auteur sait de quoi il parle. Je ne peux pas me cacher. Je prends aussi toutes les libertés, mais c'est inspiré de mon passé de chemsex. J'ai commencé le chemsex comme le personnage de la pièce, après une rupture amoureuse. Cela a été le déclencheur, mais aussi le déclencheur de l'écriture, parce que j'avais mal. Quand j'ai commencé à écrire cela en 2014, c'était mes grosses années de consommation. J'ai commencé à faire du crystal meth. En 2011, juste après la production de ma pièce au Katsu, « Faire des enfants », le lendemain de la dernière, à peu près sans que j'aie prévu de coup. Ce qui est drôle, c'est que les gens qui avaient vu cette pièce pensaient que je prenais de la drogue pour avoir écrit cette pièce, mais pas du tout. J'étais alors dans le fantasme et l'imagination. En fait, j'avais très envie d'aller explorer ce monde-là. Il y a eu cette rupture douloureuse et je me suis mis à consommer beaucoup, et je n'arrivais plus à créer. L'autofiction est venue naturellement parce que la seule chose que j'arrivais à faire à ce moment-là, c'était d'écrire sur ce que je vivais. Mais peut-être qu'il y a eu aussi ce réflexe d'auteur que j'ai toujours eu, en fait. La structure est venue rapidement. J'ai toujours ce fantasme des structures et cela me vient rapidement. Donc, l'idée de cet homme enfermé dans une chambre de sauna pendant plusieurs jours, d'où il nous parlerait, s'est imposée. En quelques semaines, j'ai écrit un premier jet. Puis après, le texte a été retravaillé. Mais c'est un texte qui est venu d'un souffle et qui a été écrit en partie sous consommation. Je suis très content de l'avoir écrit, mais je sais aussi que je ne pourrai plus l'écrire, car le Éric que j'étais n'existe plus. C'est un fragment, un instantané de ma vie, de l'état d'esprit dans lequel je me trouvais à l'époque et qui peut rejoindre beaucoup de gens. Cela a l'air assez simple, un monologue, mais il y a des allers-retours puisque le personnage raconte en même temps les quelques jours qu'il a passés dans ce sauna et les quelques mois qu'il a passés avec ce gars et leur rupture. Il y a un jeu de miroirs qui se répondent. On est dans l'alternance, dans la multiplicité et l'intensité des rencontres, de la drogue, du sexe dans le sauna, donc très sexe, et l'intensité du sentiment amoureux, romantique. J'aurais envie de dire que c'est extrêmement classique, l'histoire d'une peine d'amour racontée au public. C'est peut-être ma pièce la plus romantique. La pièce a été lue. Quels ont été les premiers commentaires? La pièce a été lue au Festival du Jamais Lu à Strasbourg. Au départ, je ne pensais pas que la pièce serait choisie, mais je me souviens que Marcel Dubois, l'ancienne directrice du Festival du Jamais Lu, m'avait dit qu'elle avait été touchée par ce récit de quelqu'un qui échappe à sa vie, où il y a une perte de repère complète. Peu importe ce qui la provoque, tout le monde pouvait s'y reconnaître. Alors que moi, j'étais persuadé que cela n'intéresserait qu'un petit groupe de nos communautés. Tu as lu plusieurs fois ce texte, mais tu ne joueras pas? C'est une pièce que j'aime beaucoup, mais je suis content de ne pas avoir à la jouer pour une raison simple. Il était prévu de la monter en 2017, et je pense qu'à l'époque, j'aurais très mal vécu de me retrouver dans les médias, confronté au public, d'autant que je consommais encore à ce moment. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus serein pour la présenter dans le cadre de la production actuelle et cela me permet d'être dégagé dans les choix de mise en scène. Je suis détaché dans un bon sens. Je n'interviens pas beaucoup. Ce recul me fait du bien. Lorsque j'ai fait la première lecture à l'époque où j'ai lu, je me suis dit tout de suite après, plus jamais ça. D'autant qu'à l'époque, bien sûr, les gens autour de moi savaient que je n'allais pas très bien, mais ils ne se doutaient pas de ce que je vivais et comment je vivais. Cela m'a forcé à en parler, de commencer à suivre un chemin quelque part vers la guérison, mais en même temps, je me mettais en danger puisque tout de suite après la première lecture, je me suis sauvé, sachant que j'avais mon stock de conso dans mon sac à dos. Il n'y avait aucune distance entre ce que je venais de faire, lire ce texte, et ce que je vivais. Et si j'avais eu cette distance, je ne sais pas si j'aurais eu le courage de me mettre à nu comme cela. Heureusement, j'ai été assez inconscient. Je me souviens, après la lecture, être sorti de scène en tremblant, me demandant ce que je venais de faire. Et en retravaillant le texte, même 10 ans ou presque plus tard, alors que je me croyais détaché de ce que j'avais écrit, je me suis rendu compte que cela pouvait être encore dur pour moi. Donc, pas question de monter sur scène pendant 3 semaines et d'incarner ce personnage. Ce qui est fort, c'est que le texte ne se veut pas pédagogique. Pour nous mettre en garde contre les dangers du chemsex, on est loin de ce type de théâtre documentaire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le chemsex peut nous dire sur nous, sur nos relations. Je sais que pour moi, cela répondait à un besoin, et ça a fait sa job. Je pense que j'avais besoin d'aller explorer cela. Cela m'a permis un grand changement aujourd'hui. J'avais des enjeux personnels à régler et je suis arrivé au chemsex parce que cela n'allait pas. C'est un peu cliché ce que je vais dire, mais on sait que la drogue, ce n'est pas le problème, c'est une solution. La drogue vient régler quelque chose temporairement. Je suis allé au bout de cette solution et lorsqu'elle n'a plus fonctionné, cela m'a obligé à affronter ce que je ne voulais pas voir chez moi. Le personnage le dit. Il parle de sa relation amoureuse en disant qu'il avait cherché à être jeté de cette relation toxique comme une justification pour abattre le mur entre le cristal meth et lui. Il y avait aussi ce désir du danger, l'attirance de la transgression. Je pense que j'ai cherché cela inconsciemment. Info. Ces regards amoureux de garçons altérés, au théâtre Prospero. Texte, Éric Noël. Mise en scène, Philippe Cyr. Interprète, Gabriel Zabot. Du 8 avril au 3 mai 2025, supplémentaire du 29 avril au 3 mai 2025. Site web, théâtreprospero.com. C'était « Ces regards amoureux de garçons altérés », un chant d'amour désespéré. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 30 mars 2025 dans le magazine Fugue.